Dans le livre de 2 Corinthiens, je crois, il est dit, je crois que c'est 2 Corinthiens, il est dit, pourquoi vous ne supportez pas quelques injustices? Il dit, mais comment on peut supporter l'injustice? L'apôtre Paul dit, mais il dit, parmi vous, il y a des frères qui se plaignent qu'un frère l'a volé, qu'un frère l'a escroqué. Il dit, c'est dommage qu'il y ait des voleurs au milieu de vous. D'accord, le voleur doit être sanctionné. Mais vous-même qu'on a volé, pourquoi vous ne supportez pas qu'on vous vole? Oh. Mais il faut le lire. C'est ce que, quand Paul dit de supporter l'injustice, il dit, on te vole et puis tu dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Wow. Amen. Dieu a donné, Dieu a repris, tout lui appartient, tout est à lui, c'est pas grave. Il dit, supportez les injustices. Appelez le frère, réglez entre les frères. Mais ça vous fait tellement mal qu'au lieu de régler ça dans l'église, vous partez même appeler les juges, tout ça là, vous partez dire ça aux païens. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement attaché à des principes que mon premier commandement, avant même la justice, dit, le premier commandement, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, vous mettez ça de côté à un moment donné pour dire non, justice doit être faite. Mais le Dieu de justice te dit aime d'abord. Tu dis non, justice d'abord. Dieu aime, mais il est un Dieu juste. Mais la manière dont tu dis Dieu est un Dieu juste, ce n'est pas la même façon que Dieu se définit dans sa justice. Tu adores la justice au lieu d'adorer le créateur et l'initiateur de la justice. Amen. Alors Dieu me dit, renonce à la justice. Accepte de voir l'injustice dans le monde et bénis Dieu. Jésus a vu l'injustice et il a aimé les hommes. Il a vu la méchanceté et il a aimé l'homme. Il ne s'est pas rempli d'une colère pour dire qu'il ne doit plus exister. Ça montrait qu'il a aimé plus que l'injustice des hommes. Vous me suivez? Donc quand même ils étaient injustes, il était prêt à supporter jusqu'à ce qu'on soit sauvé. Ça c'est extraordinaire. C'est vrai que le dernier jugement mettra la justice de Dieu. Mais pour le moment, on est dans la phase de la grâce. Amen. Dis amen à Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps? J'ai renoncé à la justice. Du coup, l'injuste, je l'aime aussi. Surtout quand un injuste attaque ce que j'aime, le pays. Si tu es injuste, que tu voles l'argent, ça, je ne suis pas rattaché à l'argent. Si tu voles ma voiture, ça n'a rien me fait. Mais si tu tues les gens dans le pays, alors, j'aurai des problèmes pour souhaiter ton bonheur. Quand on dit prier pour bénir vos ennemis, mais ma bénédiction n'est pas une vraie bénédiction. Sois béni. Et dans mon esprit, je dis que cette bénédiction-là amène les charbons ardents sur toi. Sois béni. Allez, une bénédiction collée, une bénédiction nerveuse, une bénédiction qui est bénédiction du bout des lèvres, mais dans le fond, ça dit, mais que ta vie soit. Que Dieu te montre qu'il est Dieu. Ah, c'est ce que mon cœur dit. Maintenant, ma bouche essaie de faire l'effort. Parce que tu es pasteur, il faut dire. La Bible dit aime tes ennemis. Donc, ah, c'est. Si le pasteur dit prions contre les méchants, on va dire pasteur toi aussi. Donc, tu fais l'effort. Prions pour nos ennemis. Mais dans mon cœur, je dis que le malheur leur arrive. Dieu dit, tu vois, tu n'as pas renoncé. Il y a quelque chose entre toi et moi. Ma gloire n'est pas parfaite dans ta vie. Laisse ça tomber. Est-ce que quelqu'un suit? Quelqu'un suit? Donc, premièrement, détachement. Deuxième chose, il faut servir Dieu en toutes choses. Amen. Servir Dieu, c'est quoi? Ici, il a son travail. Ça, c'est la deuxième clé pour activer la lance de bénédiction. Son foyer, ses amis, en fait, tout ce à quoi il pouvait être attaché avant. Ses proches, tout ça, etc. Ses principes, tout ça. Je vous ai dit, la deuxième clé, il faut servir Dieu en toutes choses. C'est-à-dire, quand tu es en train d'aider tes amis, fais-le pour Dieu. C'est ce que j'ai expliqué dimanche dernier. Quand tu vois dans toutes ces personnes, dans ton travail, un service que tu offres à Dieu, tu permets à la vie de Dieu de bénir tout et de recevoir la gloire de Dieu aussi longtemps que tu vas les bénir. J'ai expliqué dimanche dernier, le premier lancement dimanche dernier pour comprendre, en fait, le principe de voir dans tout ce que tu fais un service pour Dieu. Dans tout. Amen. Amen. Quand tu t'es détaché, tu as mis les choses à l'arrière de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Mais tu ne peux pas prendre la gloire de Dieu pour donner la gloire de Dieu à ton travail. Si lorsque tu vas au travail, dans ton esprit, tu travailles juste pour le salaire que ton patron va te remettre. Si tu travailles, tu travailles pour le patron, mais dans ton cœur, tu travailles pour Dieu, tu es ponctuel au travail parce que c'est le travail de Dieu, tu es excellent dans ton emploi parce que derrière l'entreprise, tu vois le Seigneur, ton patron va te remettre le salaire, mais au-dessus de lui, il va avoir aussi un salaire divin. Amen. Parce que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui travaillent pour lui. Hébreux chapitre 11, verset 6. Amen. Quand tu éduques tes enfants, tu les éduques parce que tu considères que ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Donc, c'est comme si tu éduques tes enfants, André. André, ce n'était pas tes enfants. C'est comme si ce sont les enfants de Dieu. C'est ce qui te donne droit de dire, quand tes enfants sont malades, Seigneur, tes enfants que tu m'as confiés sont malades. Tes enfants n'ont pas l'argent pour aller à l'école. Quand tu dis ça à Dieu, Dieu se lève. Il va trouver toujours l'argent parce que ce sont ses enfants. Mais si tu dis à Dieu, ma femme, mes enfants, Dieu dit, bon, comme c'est pour toi. Mais si tu dis, l'épouse que tu m'as donnée, les enfants que tu m'as donnés, ce que tu as mis à ma disposition, si tu considères que t'occuper d'eux, c'est servir ton Dieu. Vous avez dit, femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. C'est-à-dire, ce que tu fais pour ton mari, fais-le pour lui, mais comme si tu le servais le Seigneur. C'est alors que toute la gloire que Dieu te donne peut être reçue par ton conjoint, ton travail et tes amis. C'est la deuxième clé de la lance de bénédiction. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on peut acclamer pour eux. Amen. La troisième et puis la dernière chose, on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Amen. L'alliance de bénédiction peut arriver à un point où ce n'est pas seulement ceux qui te bénissent qui sont bénis. L'alliance de bénédiction arrive à un point où quand tu prononces une faveur sur la vie d'un individu, la faveur lui arrive et ça demeure. Autrement dit, avant l'alliance de bénédiction, tu as besoin que Dieu t'ouvre des portes. Le Seigneur dit par exemple, je te donne la porte de tes ennemis, je vais ouvrir des portes pour toi. À partir de la troisième clé pour activer la lance de bénédiction, tu as le privilège toi-même d'être celui qui prononce la faveur sur les gens. Quand tu ouvres une porte pour une personne, la porte est ouverte. Quand tu fermes une porte, s'il te plaît, ne faut pas fermer la porte des gens quand même, ok? Mais s'il te vient de fermer une porte, la porte est fermée. Pour que Dieu te donne un tel pouvoir, il va s'assurer que toi et lui, vous avez le même cœur. Parce que sinon, tu vas détruire la vie de trop de personnes. Ouh là 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 là. Un gars, il te fait une queue de poisson au volant. Quoi? Tu sais à qui tu as fait? Je ferme. Je te ferme la porte. Oh! Donc, un tel pouvoir, Dieu veut que tu aies son cœur. Les deux clés qui vont venir dans ta connexion avec Dieu vont travailler sur ton cœur à toi. Amen. Pour permettre à ce que les portes soient ouvertes dans la vie de ceux que tu juges nécessaires. Alléluia. Quand vous voyez des pays comme les États-Unis ou beaucoup de pays européens, malgré les péchés, malgré beaucoup de choses, vous avez l'impression que la justice de Dieu ne... C'est vrai que l'Afrique, on fait les fétiches, on est mauvais. On a fait du mal ici en Afrique. Ça, il faut reconnaître. On n'est pas mauvais, on a fait du mal. Mais moi, j'ai vu dans tous les pays, les gens ont fait beaucoup de n'importe quoi aussi. Hein? Beaucoup de n'importe quoi. Je pose la question, mais pourquoi? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est juste? Vous voyez, même la justice même là, tu as envie de juger Dieu avec ça. Est-ce que ce que tu fais, c'est juste? Et c'est là que je viens de faire comprendre que l'alliance de bénédiction crée des faveurs. Il y a des gens dans les pays comme les États-Unis, en Europe, qui, à un temps de l'histoire, ont posé des actions qui ont fait que toutes ces nations-là évoluent sur une faveur. Et moi, je crois que nous sommes cette génération qui va ouvrir une porte de grâce pareille sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique et sur les pays qui passent par des temps, les pays qui souffrent. Je le sens dans mon être. Mais pour que cela se fasse, pour que cette action-là soit activée, il nous faut, amen, poser certains actes. Alléluia. Donc, dans l'alliance de bénédiction, comme on a décrite avec Abraham, où Dieu jure de bénir tous ceux qui te béniront, il y a encore un autre paramètre où Dieu bénit maintenant. Dieu ouvre, Dieu maintient ouvert toute porte que tu as ouverte et Dieu maintient fermée toute porte que tu fermes. À moins que toi tu dis, la porte que j'ai fermée, je l'ouvre à nouveau. Amen. Ça, pour avoir ça, ce n'est pas très compliqué. La première des choses qu'il faut faire, donc la troisième chose dans la lance de bénédiction, donc ça c'est un supplément sur la lance de bénédiction. C'est-à-dire, on a déjà l'alliance, on s'est détaché, Dieu et nous on est liés, mais la vie divine doit encore couler un peu plus. C'est ce que Jésus dit. Servez Dieu avec un esprit de sacrifice. Servir Dieu avec un cœur qui se sacrifie. Amen. Premièrement, détache-toi. Deuxième chose, sers Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Troisième chose que tu dois faire, il faut servir Dieu avec un esprit de sacrifice. La porte dont j'ai parlé, la Bible l'appelle la capacité d'ouvrir une porte et elle reste ouverte. Donc bien sûr, si tu l'ouvres sur tes enfants, ça va rester ouvert. Tu l'ouvres sur ton village, ça va rester ouvert. Amen. Cette spécificité de l'alliance de bénédiction, dans la Bible, est appelée la clé de David. La clé de David. Dis-moi la clé de David. On en parle dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Il est dit dans ce passage, on va le lire ensemble, Ésaïe 22, 22. 1, 2, 3, lisons ensemble. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Nul. Amen. Donc, Ésaïe 22, 22 décrit la caractéristique de la clé de David. Quand on ouvre, personne ne ferme. Quand on ferme, personne n'ouvre. Donc, c'est une alliance aussi de bénédiction. C'est-à-dire, ta parole, tes décrets se prolongent aussi longtemps que tu maintiens la porte ouverte. Et aussi longtemps que tu maintiens une porte fermée, elle est fermée. Amen. Dieu reparle encore de cette fameuse clé de David. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, il est dit, on va lire encore ensemble, 1, 2, 3. Écrit à l'ange de l'église de... Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a quoi? Il a quoi? Et on dit quoi? Celui qui ouvre ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc voilà deux textes bibliques qui montrent qu'il existe une clé appelée la clé de David, qui a la caractéristique pour celui qui la possède d'ouvrir et personne ne peut fermer ou de fermer et personne ne pourra ouvrir. Amen. Donc personne n'a pas inventé ça, c'est dans la Bible. Amen. Et la Bible l'appelle clairement la clé de David, avec deux textes qui en parlent. Amen. Alors, si vous voulez voir la clé que David a obtenue, il faut regarder un peu la vie de David. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, qui a aussi manifesté la lance de bénédiction, il y a une petite différence entre lui et David. Lorsqu'Abraham est parti sacrifier Isaac, c'est parce que Dieu le lui avait dit. Vous me suivez? Dieu a dit à Abraham, va donner Isaac. David, c'était différent. Contrairement à Moïse, à Abraham, lui, il n'attendait même pas que Dieu dise. Il regarde Dieu et puis il s'élève délibérément. Et il offre à Dieu tout ce qui a de la valeur pour lui. C'était devenu une culture. C'était devenu sa culture. Tout ce qu'il offrait à Dieu était quelque chose qui avait de l'importance pour lui. En fait, la clé de David n'est pas une obligation. C'est-à-dire, il ne va pas t'exiger. Il y a des choses que Dieu ne va pas te demander. S'il voit que tu as attaché à une chose, il va dire, détache-toi. Mais il y a des choses, il ne te dira rien. Le détachement, il va te dire, maintenant tu peux être détaché de tout. Mais seulement, il y a des choses qui ont beaucoup d'importance pour toi. Amen. L'aptitude à savoir offrir ça au Seigneur déclenche ce qu'on appelle la clé de David, qui est un supplément de l'alliance de bénédiction. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Et on voit cela constamment dans la vie de David. Il a dit, regardez comme ça en 1 Chroniques chapitre 21. Ornan répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Donc verset 23, il y a un monsieur qu'on appelle Ornan, il a vu David, il dit, tiens les bœufs, tiens tout ça pour faire des sacrifices à Dieu. Verset 24. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Amen. Dis amen à Jésus. Ah, je ne sens pas bien ton amen. L'alliance de bénédiction s'ouvre dans la vie de ceux qui ont le réflexe même d'apporter à Dieu des choses qui ont de la valeur pour eux. Vous savez, c'est le gars, quand il est là et puis dans l'église, on fait son offrande, il ne peut pas mettre dans... En fait, Dieu ne demande pas un montant. Dieu ne demande rien, il ne t'a pas demandé. Mais c'est-à-dire quand le gars a mis sa main dans sa poche, et puis il ressort, il commence à réfléchir, c'est en disant, il dit, mais ah, l'argent même que je vais donner là, si je viens à le perdre, à l'égarer dans la maison, est-ce que ça me fait mal? Alors il se rend compte que cet argent-là, tu peux le perdre. Et ça ne te dira rien du tout. Il dit, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Si j'offre au Seigneur, c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. C'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. Écoutez, ce que je suis en train d'expliquer. On ne se marie pas pour donner des choses à son épouse simplement. On partage tout. On a une vie commune. Mais sincèrement, mes soeurs, si tous les cadeaux que ton mari t'offre n'ont pas de valeur pour lui, tu sais que ça peut te faire un peu mal quand même. Mais ce n'est pas des choses que tu vas demander. Parce que si tu demandes, ça perd de sa valeur. Tu viens, tu dis à ton mari, moi j'aime ça. Quand il le fait, ça te fait plaisir. Mais là, le fait que tu ne lui aies rien dit, et puis il te donne ce que ton cœur désire, ou il se sacrifie pour toi, ça fait encore plaisir. C'est-à-dire, dire à quelqu'un, moi je veux telle voiture, et puis il te la donne. Et puis tu lui as rien dit, et puis il vient, il te donne. Il y a une différence dans le plaisir que ça fait. Quelqu'un est-il avec moi? Maintenant, c'est quoi la valeur du sacrifice? Amen. Tu sens que ton gars, ton mari, il s'achète tous les cellulaires qu'il veut. Et un cellulaire comme ça, il met 400 000. Maintenant, toi, quand il t'achète portable, 20 000 francs. Bon. Lui-même, quand il prend une montre, or, serti de diamant. Quand il t'offre une montre, pacotille qui devient noir tout de suite. Tiens. Même s'il te donne ça avec amour, chérie, pour ton anniversaire. Tiens. Tu as porté 2 jours, tout est noir. Or, celui. Or. Serti. Et puis il est content, il marche dans la maison. Est-ce que tu sais que la considération que tu as pour lui va prendre un petit coup quand même. Ce n'est pas pour ça qu'on divorce. Non, ce n'est pas pour ça. En fait, ce que je vais dire là, si tu ne fais pas, ça ne va même pas casser ta relation entre Dieu et toi. Rien. Mais en fait, ça traduit simplement qui est Dieu pour toi. Parce qu'il ne va jamais te l'exiger. Parce qu'il n'en a pas besoin. La clé de David, en fait, l'art de David, c'est d'aller discerner ce que Dieu aime, sans que Dieu lui a dit qu'il aime ça, et puis il donne à Dieu. C'est ça, David. C'est ce qui a fait qu'il a eu la clé. C'est-à-dire, lui-même, Dieu ne lui dit rien, puis il regarde Dieu jusqu'à... Il dit, Dieu aime ça, hein? Et puis il va offrir à Dieu. Ça nécessite, pour avoir la clé de David, une grande capacité d'observation de Dieu. Généralement, ceux qui ouvrent la clé de David, ce sont des grands adorateurs. C'est-à-dire des gens qui prennent le temps pour admirer les œuvres de Dieu. C'est-à-dire le matin, il s'assoit, il regarde les oiseaux. Quand il voit les oiseaux, il dit, mais comment Dieu les a fait? Il regarde son pouce, il dit, mais ma main. Supposons que le pouce n'était pas là. Que tous les doigts étaient alignés de la même manière. Est-ce que vous savez qu'on ne pourrait même pas prendre un stylo? Le fait que le pouce soit détaché, ça nous permet de saisir les objets. Et puis il dit, Seigneur, même à ça tu as pensé. Un jour, je vous ai dit, j'ai fait de la plongée sous-marine. Je suis allé sous les mers pour nager, quoi. N'aie pas peur, il n'y a pas sirène des eaux là-bas. Au nom de... Il y en a qui ont peur de la mer à cause de la sirène des eaux. C'est Dieu qui a créé la mer. Et je suis arrivé, resté dans les îles, les Antilles. Et même, je pense que si, sous nos mers aussi, on les trouve. Et j'ai vu les poissons, et les coraux, les coquillages, les choses qui sont en dessous. Mais d'une telle beauté. Ça veut dire l'agencement des couleurs. Quand tu vois les poissons, là, mais ça veut dire, ils sont tellement beaux. Et puis, dans l'eau, je faisais l'initiation à la plongée. Donc, j'étais avec un moniteur. Quand je regardais, lui, moi, j'étais en train d'adorer. J'ai dit, waouh. Même ce qui est caché, Dieu le fait beau. C'est-à-dire ce que on risque même de ne pas voir. Dieu prend le temps pour dessiner le détail. Et puis, il fait de l'art. J'ai dit, mon Seigneur, qui est comme toi? Tu es extraordinaire dans le détail. Et à force de contempler Dieu, tu finis par comprendre ses goûts. Parce que tu prends le temps de l'observer. Tu ne peux pas donner à une personne ce qu'elle aime. Soit elle va te le dire, soit tu as pris le temps de l'observer. Si tu ne l'as pas observé, tu ne peux pas savoir qu'elle aime ça. Tu ne peux pas savoir. La clé de David commence dans la vie des gens, en fait, qui prennent le temps d'observer patiemment Dieu, dans son œuvre, dans son action. Et c'est ce que David a fait dans sa vie. Dieu, il s'apprêtait à faire une offrande au Seigneur. Quelqu'un vient, M. Ornan, qui dit, moi je t'offre tout le cadeau, donne ça, donne. David dit, si je fais l'offrande, la malédiction va s'arrêter, parce que la condition, il y avait une malédiction sur Israël. Et la condition pour que la malédiction s'arrête, c'était une offrande. Abraham, Dieu, David dit, si je fais l'offrande, la malédiction va s'arrêter. Pour la plupart des gens, le plus important, c'est que la malédiction s'arrête. David, ce n'était pas le plus important que la malédiction s'arrête. C'est-à-dire, la malédiction va s'arrêter, mais avec quelque chose qui me coûte quelque chose. Dans les deux cas, s'il avait pris l'offrande de Ornan, la malédiction serait arrêtée. Les gens qui aiment Dieu, ce n'est pas le résultat qu'ils cherchent. Le résultat, ils l'ont déjà. Ils font d'autres choses. C'est-à-dire, quand Dieu les regarde, puis tu dis, mais attends, pourquoi tu as pensé à ça? Et ce sont des choses qui font que Dieu même a les larmes aux yeux. Et c'est là qu'il se fâche dans ta vie. En bien quoi? Il dit, mon fils, attends, je te donne mon pouvoir même. Hein, tu sais ça? Quand tu parles, tout ce que tu dis, ça arrive. Si tu dis une chose n'arrive pas, n'arrive pas. Parce que tu as mon cœur. Tu me comprends, tu me connais. Tu sais ce que j'aime. Je te donne tout. Et je le fais sur ta descendance. Mes amis, quand vous arrivez à l'épreuve 5, vous n'êtes pas loin d'activer ça. Alors ne vous en privez pas. Alléluia. Mais toutes ces choses-là ont de la valeur. David, oh, David a compris, je vous l'expliquais dans laquelle David a compris que au trône de Dieu, la vraie adoration, c'est ce qui tient Dieu. C'est David qui a révolutionné le mystère de l'adoration. Moïse, le grand Moïse, n'avait pas vu ça. Moïse connaissait Dieu 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu as Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration selon le tabernacle de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai l'impression qu'il y en a qui sont largués. Pardonnez, comprenez ou comprenez. Amen. Vous me suivez? Amen. Quand David a fait ça, il y a un endroit qu'on appelle la tente de David. Et là, dans le tabernacle de Moïse, il y a deux tabernacles dans la Bible. Tabernacle de David, tabernacle de Moïse. Le premier, c'est Moïse. Moïse, là, c'est Dieu même qui s'est levé, qui a dit, Moïse, voilà comment on fabrique ma maison. Il y a un parvis, il y a un lieu saint, il y a un lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est moi-même qui suis là-bas, mais l'arche de l'alliance. Aucun homme ne peut arriver comme ça, parce que je suis très saint. À un moment donné, David voulait tellement adorer Dieu que lui, il a fabriqué un autre tabernacle où il n'y a pas parvis, où il n'y a pas deux étapes pour atteindre Dieu. Dès que tu rentres dans la maison, tu rencontres Dieu. C'était interdit de voir l'arche et de toucher l'arche. Si tu touches, tu meurs. David, on ne sait pas qui lui a dit. Il n'avait aucune révélation. Il s'est levé, il a mis une seule tente, sans les deux pièces précédentes. Tout ce qu'il y avait autour, on chantait seulement et on adorait Dieu. Tout le monde avait accès à la gloire de Dieu, simplement par le cœur de Dieu. Parce qu'il avait compris que le cœur de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Mais comment il a vu ça? C'est à force d'observer Dieu. Moïse, on lui a dit de faire le tabernacle. David a eu sa révélation du tabernacle. C'est pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, il est écrit, « Dans les derniers jours, je relèverai de sa chute le tabernacle de David. » Dis amen à Jésus. Est-ce qu'il y a des David dans ce lieu? Mon ami, tu es dedans, il ne faut pas te mettre loin. Dis, c'est moi. Seigneur, que je sois un David de mon époque. Amen. Il en est ainsi. Le sacrifice, un cœur de sacrifice. Un cœur qui ne donne pas à Dieu des choses qui n'ont pas de valeur pour lui. Tout ce que, quand tu fais une chose, c'est ça. Le sacrifice, c'est le fait de pouvoir se perdre, de s'offrir pour le salut d'autres personnes. Parce que Dieu aime les gens. Quand tu adores Dieu, tu comprends qu'il aime l'homme. Et tu comprends, et quelquefois, tu es prêt à sacrifier ton temps, tes privilèges, pour aller annoncer la parole de Dieu. Un prédicateur disait ceci, il prêchait un jour, et dans un endroit, un prophète prophétisait. Et puis il a dit à quelques-uns, toi, ainsi dit Dieu, tu seras pasteur aux États-Unis. Le gars dit, amen. Toi, pasteur en Allemagne, amen. Il a dit comme ça, quatre bons pays. Et puis il arrivait et dit, toi, ainsi me dit le Seigneur, tu seras pasteur dans un coin perdu au Togo. Le gars dit, niet, je refuse. Il dit, ce n'est pas une prophétie de Dieu. Je rejette. Les autres, quand on a dit, New York, je reçois. Père, que ta volonté soit faite. Là, c'est facile de dire que ta volonté soit faite. Père, tu as dit New York, New York. Maintenant, il dit, va à Lakota, Lakota.